Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Nemo en pisse.
19h10 à Paris, 18h10 en temps universel. Comme tous les dimanches, votre rendez-vous politique de la fin de semaine. J'accueille aujourd'hui Dorian Dreuil. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'Université Paris-Nanterre. Pour débuter cette émission, revenons peut-être rapidement sur l'un des sujets qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine dans la sphère politique, les réquisitions du parquet envers Marine Le Pen. Je rappelle le contexte. Depuis le 30 septembre, 25 personnes, dont Marine Le Pen, sont jugées devant, dans le procès des assistants parlementaires du FN. Ces réquisitions qui la visent, précisément, les voici. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 euros d'amende, mais aussi 5 ans d'inéligibilité, précisons, avec exécution provisoire, comprenez, avec application immédiate, même en cas de recours. C'est ma mort politique qui est réclamée, dit la concernée. Marine Le Pen qualifie même ces réquisitions, je la cite, d'atteinte très violente à la démocratie. La présidente du groupe RN à l'Assemblée maintient donc sa ligne de défense et le calcul est simple. Si le juge retient ses réquisitions, celle qui a accédé au deuxième tour lors des deux dernières présidentielles ne pourrait pas se présenter en 2027. Dorian Dreuil, après ces déclarations de Marine Le Pen, c'est tout de même le rôle de la justice et même son indépendance qui sont attaquées par l'extrême droite.
Oui, et c'est même un peu plus que ça par un peu plus de monde. Un peu plus que ça, parce que ce que ça remet en cause derrière, c'est les principes fondamentaux de notre démocratie, les valeurs fondatrices, on pourrait dire ça comme ça, de la République, et par un peu plus de monde, parce qu'elle n'est pas la seule.
Bien sûr.
Qu'un responsable politique qui soit
pas
voilà,
la seule de
sous
son
le coup
camp
de...
politique.
Ni de son camp et même au-delà. Mmh. Et c'est ça qui doit être, qui doit peut-être nous préoccuper, ou en tout cas qui peut être préoccupant, qu'une personnalité qui soit sous le coup d'un procès, de telle réquisition, une personnalité politique, sorte la question un peu de la victimisation sur le procès politique ou autre. C'est assez classique, elle n'est pas la seule, ça se partage à gauche comme à droite. En revanche, là où c'est assez nouveau, c'est qu'il y a une sorte d'unanimité qui se crée. On pourrait même parler de connivence intellectuelle sur mettre en opposition la souveraineté populaire en démocratie et cette potentielle inéligibilité qui a été votée hein, d'ailleurs par la représentation nationale, c'est la loi Sapin 2.
C'est bon, la loi.
Il n'y a personne d'autre que les représentants du peuple qui a créé cette disposition. Donc autre, rien d'autre que la démocratie qui s'applique à elle-même. Mais cette stratégie-là arrive à un moment où on entend de plus en plus des responsables politiques qu'on qualifiait pendant longtemps de droite de gouvernement ou de droite républicaine, qui remettent en cause à la fois l'état de droit, qui élargissent un peu le débat à la question de l'état profond, à la question de gouvernement des juges, qui étaient autrefois des thématiques plutôt réservées aux antisystèmes et plutôt aux extrémistes, et qui là se propagent dans une part importante de la classe politique. Et donc là où ça doit inquiéter, c'est qu'on est dans un contexte international et national de montée des autoritarismes, des populismes de tous bords, qui jouent la démocratie contre elle-même. Et on rentre petit à petit, jour après jour, dans cette configuration-là, aussi dans notre vie politique.
Alors on les oppose souvent, ils s'opposent souvent même, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui a pris position aujourd'hui. Le chef de file de la France Insoumise, qui était invité de France 3 ce dimanche, se dresse également contre l'exécution provisoire. On l'écoute.
Dans tous les pays où il y a un état de droit, eh bien, toute peine doit pouvoir être placée en recours. Voilà. Et alors j'ajoute, pour qu'on me comprenne bien, que je suis donc partisan du fait qu'on ne lui applique pas immédiatement et sans voie de recours l'inéligibilité, et après, que le jugement s'applique si les juges décident de l'appliquer, et elle fera les commentaires, et moi aussi.
Sortie de Jean-Luc Mélenchon, autre sortie plutôt marquante, celle de Gérald Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur, qui a lui-même estimé, je le cite, qu'il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Là encore, c'est une remise en cause de l'indépendance de la justice. Que cherche à faire Gérald Darmanin ? Se tourner peut-être vers un électorat au penchant le péniste ?
Ben, en tout cas, on pourrait se dire, d'une certaine manière, on est chez les fous. C'est-à-dire qu'au nom de l'état de droit, on devrait remettre en question ce qui est précisément l'état de droit. Mmh. C'est-à-dire que pour une citoyenne, la règle ne devrait pas s'appliquer. Est-ce qu'on va, de fait, du coup, remettre en cause l'ensemble des jugements qui ont été prononcés en application de la loi Sapin 2 ces dernières années ? Est-ce qu'il y a des règles spécifiques ou des cas d'exception qu'on pourrait prévoir pour une élection présidentielle et pas une élection municipale, par exemple ? On rentre vraiment dans un terrain glissant et dangereux. Glissant et dangereux parce qu'il en faut peu pour alimenter ce petit fond de l'air, ce petit fond d'atmosphère qui performe hein, dans l'opinion, à laquelle l'opinion, une partie de l'opinion peut être sensible, d'institutions d'une certaine manière à deux vitesses. C'est d'autant plus particulier qu'on est, bon, en tout cas, d'un double point de vue. D'abord, le premier, c'est que le jugement n'est pas rendu. Mmh. Et donc, on a comme ça une pression politique qui monte sur des juges.
De plus en plus récurrentes, ces pressions ?
Et qui sont de plus en plus récurrentes. Et on a en même temps cette petite musique qui, de fait, délégitime par avance, disqualifie par avance le jugement qui sera rendu. Et ça, c'est quelque chose qui est dangereux en démocratie, cette espèce de trumpisation du débat public qui peut, à terme, nourrir des ressentiments dans l'opinion qui rendrait la situation, ou en tout cas le débat public d'ici 2027 et le débat politique, vraiment sous des auspices qui ne soient pas justement ceux de protéger, renforcer la République et la démocratie.
Bon, alors Marine Le Pen, inéligible ou pas, la réponse n'est pas attendue avant le début d'année 2025. Le procès des assistants parlementaires du FN doit se refermer le 27 novembre prochain. Revenons à l'actualité politique française plus chaude. Un an après un mouvement majeur, les agriculteurs prévoient une nouvelle mobilisation d'ampleur. À partir d'aujourd'hui, elle a débuté. Ils protestent toujours contre des revenus trop faibles, même après les aides d'urgence et les annonces faites par le gouvernement. Mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats de la profession. 82 actions recensées en tout à travers le pays, selon Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Il était l'invité de BFM TV et selon lui, le temps presse.
La situation d'urgence est telle qu'on ne peut pas attendre trop longtemps. Et je vois bien qu'entre le temps politique et la réalité économique de ce que vivent un certain nombre d'agriculteurs, il y a aujourd'hui un fossé qui est en train de se creuser. On a besoin d'aller vite.
Les agriculteurs qui entendent mettre la pression sur le gouvernement Barnier, Dorian Dreuil, peut-on s'attendre à autant de bruit que lors des manifestations d'il y a un peu moins d'un an ?
Oui, c'est possible, d'autant qu'on n'est pas sur une nouvelle mobilisation ou on n'est pas sur une réactivation d'une mobilisation. En réalité, on est toujours dans la même mobilisation qu'on a connue il y a un an et qui, en fait, si on tire un peu, est structurelle depuis peut-être ces 20 dernières années. Donc on est dans cette espèce de continuum de colère du côté des agriculteurs, des colères qu'on voit monter par ailleurs hein, qui renaissent toujours du sentiment que ou les promesses n'ont pas été appliquées ou tout n'a pas été fait comme il devait l'être. Et de fait, il y a eu des aléas politiques entre les engagements de Gabriel Attal en début d'année et ceux de Michel Barnier aujourd'hui. Il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui doit être préoccupant, ou en tout cas ce qui est à surveiller de manière assez forte dans les semaines qui viennent, c'est qu'on a l'impression d'entrer dans un hiver des colères sociales, en fait, et de voir à quel point celles-là peuvent être ou peuvent se juxtaposer ou se coaguler. Et pour ce qui est du cas des agriculteurs, c'est la question à la fois du Mercosur, mais qui est plus large, qui est comment on produit et comment on vit dignement de ce qu'on produit.
Alors justement, pour mesurer l'ampleur de cette mobilisation, on prend la direction de Villa Coublay, d'où est parti Emmanuel Macron, justement pour sa visite en Amérique latine. Tout un symbole. Baptiste Coulon, vous y êtes. Bonsoir.
Bonsoir Nemo, bonsoir à tous.
Et donc c'est également à Villa Coublay, comme un symbole, je le disais, que se sont réunis des agriculteurs en colère.
Oui, les premiers agriculteurs en fait viennent d'arriver. Il y en a 300 qui sont attendus, nous disent ce soir les syndicats. Ils convergent en fait hein, depuis 16 heures tout à l'heure, depuis un petit peu partout en région parisienne vers l'aéroport de Villa Coublay. 4 convois avec à chaque fois entre 70 et 90 exploitants. Alors pourquoi Villa Coublay ? Eh bien, vous le disiez, c'est parce que c'est de là qu'est parti Emmanuel Macron quand il s'est rendu une fois qu'il se rend, enfin maintenant qu'il est en Argentine. Argentine. Le président qui est d'ailleurs au cœur hein, des revendications et des réclamations des exploitants ce soir, puisque les agriculteurs dénoncent notamment le Mercosur. C'est d'ailleurs ce qui revient très largement quand on parle avec eux depuis d'ailleurs maintenant une heure qu'ils sont arrivés. Les exploitants nous disent très clairement que cet accord est un accord déloyal qui ne respecte pas les normes de l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les syndicats vont d'ici quelques minutes prendre la parole pour mettre la pression aussi sur le gouvernement, pour évoquer et parler directement à Emmanuel Macron, même si le président se trouve à 9000 km parce qu'il évoque la question du Mercosur avec son homologue argentin Javier Milei. Les syndicats qui vont prendre la parole, qui parleront aussi des salaires, qui parleront aussi des lourdeurs administratives, c'est-à-dire des revendications qui n'ont pas été satisfaites, hein, nous disent les agriculteurs qu'on rencontre depuis tout à l'heure, par rapport à la mobilisation de l'hiver dernier. C'est aussi une manière pour les syndicats de mettre la pression, en fait, dès ce soir, avant la mobilisation nationale qui va débuter, qui a déjà débuté, mais qui va se poursuivre la semaine prochaine et à partir de demain.
Merci Baptiste Coulon. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a par ailleurs prévenu qu'il y aurait, je le cite, une tolérance zéro et a évoqué trois limites. Les voilà. Pas d'atteinte aux biens, pas d'atteinte aux personnes et pas de blocage durable. Il a également prévenu qu'il n'hésiterait pas à mobiliser les forces de l'ordre en cas de débordement. Dorian Dreuil, peut-on, doit-on s'attendre à plus de fermeté encore que sous Gérald Darmanin ?
La difficulté là pour le gouvernement Barnier va être double. C'est que il y a dans ce contexte de conflit social, il y a finalement deux options de sortie de crise politique. La première, c'est légiférer, réformer, et la deuxième, c'est financer ou participer au financement. Pour la première, pour ce qui est de légiférer et réformer, le contexte et le contexte de l'Assemblée nationale et la configuration politique à l'Assemblée nationale rend difficile de pouvoir, sur des sujets qui polarisent autant au sein de l'hémicycle, trouver des voies de passage ou des voies de compromis. Et pour la deuxième option, celle du financement, on voit que les marges de manœuvre budgétaires, elles se limitent de jour en jour. Donc ces deux principales options politiques qui pourraient permettre une sortie de crise, elles sont compliquées parce qu'en plus elles se juxtaposent à un sentiment de défiance grandissant vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des politiques, et avec le sentiment que malgré les engagements, ou malgré parfois les mesures appliquées qui découlent de ces engagements qui ont pu être négociés, l'effet, l'impact ne se ressent pas sur le terrain. Donc c'est effectivement le débouché politique, il est difficile à trouver, et uniquement la fermeté ne permettra pas de répondre aux prochaines journées de mobilisation, d'autant que l'opinion est quand même assez attachée à la fois au monde agricole et aussi aux agriculteurs.
Ces agriculteurs qui sont également fortement mobilisés, vous nous l'avez rappelé, Baptiste Coulon l'a évoqué également, contre l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays du Mercosur. Je vous propose de réécouter Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, qui ne se dit pas fermé aux discussions avec ces pays, à condition évidemment que l'accord soit différent.
Si demain on nous explique qu'on a un accord dans lequel il y aura à la fois le respect des accords de Paris, à la fois la traçabilité, pas de matières actives qui sont interdites en Europe, ne nous fermons pas la possibilité de faire du commerce avec le Brésil ou avec d'autres pays du monde. Et la France en a besoin, je le redis, y compris parce que nous avons des intérêts offensifs quand on parle des céréales, quand on parle des produits laitiers, quand on parle des vins et des spiritueux, mais ne le faisons pas dans des conditions qui ne respectent pas le cadre qu'on impose aux Européens.
Emmanuel Macron est arrivé hier soir en Argentine pour rencontrer le président Javier Milei. On l'a dit, le président français qui va devoir expliquer aux pays du Mercosur, dont l'Argentine et le Brésil, où il se rendra demain pour le sommet du G20, pourquoi il s'oppose à la signature de cet accord de libre-échange. Lui, le président, dit très libéral.
Oui, avec quelque chose d'assez fou de ce que dit cette situation, c'est d'une certaine manière la différence entre la temporalité parfois économique à l'échelle intercontinentale et la temporalité politique. C'est-à-dire que le Mercosur, les négociations, elles sont quasiment aussi vieilles que moi, par exemple. Ça fait 30 ans qu'il y a des négociations autour de ce traité de libre-échange. Et de fait, ça limite la capacité politique à renégocier ou à continuer les négociations en cours de route du fait de l'actualité de politique intérieure. Et la deuxième difficulté, elle est que il y a un autre échelon, c'est l'échelon de l'Union européenne. On avait des élections il y a quelques mois qui auraient pu, pas trancher, mais en tout cas purger ou aborder ces enjeux-là. Et malheureusement, les débats sont concentrés ailleurs, alors même qu'on était justement après une mobilisation des agriculteurs qui avait été similaire à d'autres pays. Donc, ce qui montrait bien que l'enjeu était pan-européen. Donc, il y a d'un côté, voilà, cet enjeu de débat démocratique à l'échelle de l'Union européenne et cet enjeu de comment retrouver de l'agilité politique dans ces négociations-là, qui aussi, d'une certaine manière, on pourrait se dire que une part du logiciel est presque dépassée. On voit dans les grandes puissances économiques autour de nous, plutôt un retour au protectionnisme, où l'Union européenne est à l'inverse, plus dans une logique libre-échangiste depuis 30 ans.
Nous allons continuer de nous opposer à l'accord, affirme Emmanuel Macron, déclaration il y a quelques minutes par rapport à cet accord avec les pays du Mercosur. C'est également ce qu'a rappelé Marc Ferracci ce dimanche, le ministre délégué chargé de l'industrie. Il était l'invité d'Europe 1 et de CNews.
L'agriculture n'est pas une variable d'ajustement. Et en l'état, ça a été dit par Michel Barnier, cet accord, il est inacceptable. Il est inacceptable pourquoi ? Il est inacceptable parce qu'il ne comporte pas suffisamment de clauses qui permettent la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire appliquer aux marchandises qui rentrent sur notre territoire et sur le territoire européen en l'occurrence, les mêmes contraintes en termes de normes sanitaires, les mêmes contraintes en termes de normes environnementales, notamment le fait de respecter les accords de Paris qui prévoient des limitations d'émissions de CO2.
Emmanuel Macron et qui espère également convaincre l'Argentine de Milei de rester au sein du consensus international. Alors Buenos Aires s'est retiré des négociations climatiques de la COP29 à Bakou et où on laisse entendre qu'elle pourrait sortir de l'accord de Paris sur le climat. Dans quelle position doit se présenter Emmanuel Macron face à ces pays d'Amérique du Sud ?
Celle de trouver la voie de compromis, en réalité. Et c'est toujours l'art difficile sur la scène internationale et particulièrement sur ces enjeux, qui est à la fois de défendre les intérêts de son pays, les intérêts de son continent, mais aussi d'essayer de trouver les voies de passage et les voies de compromis. Et on voit bien que le cadre, d'une certaine manière, le cadre de ces négociations qui s'étend sur autant de temps, prend le risque d'être souvent remise en cause par les alternances ou les aléas politiques. Et c'est le cas notamment avec le président Milei, qui, pour le coup, a une vraie rupture, ou en tout cas incarné une vraie rupture politique depuis son élection.
J'évoquais le sommet du G20 au Brésil. Ce sera le dernier de Joe Biden en tant que président des États-Unis. Un mot peut-être sur lui. Quelle trace va-t-il laisser de son passage à la Maison-Blanche, notamment sur la politique internationale de son pays ?
Il laissera sûrement la trace d'un... Ou en tout cas, ce qu'on lit beaucoup par le commentaire ou l'analyse de spécialistes, c'est qu'il restera, et c'est le paradoxe, la trace d'un grand président. Mm-hmm. Peut-être même le plus grand président démocrate de ces 20 dernières années, qui a conduit des réformes, qui a eu des résultats économiques sur la scène nationale importants, qui a eu un poids sur la scène internationale aussi, notamment sur la question ukrainienne. Et il restera aussi celui qui a battu Donald Trump. Et c'est aujourd'hui le seul qui peut mettre ça à son crédit politique. Maintenant, il y a une spécificité de la vie politique américaine qui fait que les anciens présidents continuent de peser dans le débat public, mais sûrement moins de ce dont on a l'habitude, nous en France. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de voir comment est-ce que, dans son après-mandat, il met son expérience, qui est incroyable, qui est du fait de sa longévité dans le paysage politique américain, celui qui a connu quasiment toutes les plus hautes fonctions à la Chambre, au Sénat ou à la Maison-Blanche, comment il met cette expérience-là au service des nouvelles générations démocrates dans la perspective des prochaines élections.
Dorian Dreuil, vous étiez notre invité ce soir dans Dimanche Politique. Je rappelle que vous êtes politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, enseignant à l'université Paris-Nanterre. Merci.
Merci beaucoup.
Dans quelques instants sur RFI, le retour de l'actualité africaine. Vous retrouvez Charlotte Derouin. Il sera 18h30 à Dax.